Voilà, eh bien, je pense que c'est l'heure de la pause musicale et on va se mettre les Ludwig von 88,
Quelle chanson?
la chanson Prolétaire.
Que ces attaques viennent également de mon camp, de la droite ou de ceux qui s'en réclament, je dis simplement, ils ont perdu la tête.
Mourir à 16 ans, pour un drapeau rouge, Kalachnikov en main, tirer sur tout ce qui bouge. Mourir à 20 ans, pour un drapeau noir, exprimant leurs requêtes, ton mépris du pouvoir. Prolétaire,
tous ensemble, tous ensemble,
manifeste,
tous ensemble, tous ensemble.
Prolétaire,
tous ensemble, tous ensemble,
manifeste,
tous ensemble, tous ensemble.
Pas square, fils de bourge. Mourir sans regret, la tête sous le pillon, sa révolte à la face du bourreau. Prolétaire,
tous ensemble, tous ensemble,
manifeste,
tous ensemble, tous ensemble.
Prolétaire,
tous ensemble, tous ensemble,
manifeste,
tous ensemble, tous ensemble.
Pas square, oh tu...
Et de retour sur le plateau de Fracture. Donc, on vient d'entendre les Ludwig von 88 et leur morceau Prolétaire. Alors, maintenant, on va voir un peu plus en détail la colonne vertébrale de la pensée conseilliste avec les différents et les principaux éléments théoriques de cette pensée. Pensée qui s'est d'ailleurs construite, hein, comme tu disais tout à l'heure, avec une multitude de personnes, hein, que ce soit Pankek, Gorter, Matic.
Tout à fait, Paul Matic aussi, oui.
De ce qu'on appelait la gauche germano-hollandaise, mais aussi Rosa Luxembourg. Alors, Rosa Luxembourg, c'est un peu particulier parce qu'elle n'a jamais vraiment écrit, posé des bases théoriques écrites, c'est bien ça ?
Disons qu'elle a écrit, des écrits théoriques, hein, l'accumulation du capital, sa thèse de 1913, qui est un élément fondamental de sa pensée, de la même manière que la brochure que j'ai citée tout à l'heure, Grève de masse, parti et syndicat, sont des éléments de constitution du corpus théorique du conseillisme. Néanmoins, comme elle est morte en janvier 1919, elle n'a pas eu le temps de mettre les choses en œuvre pratiquement, et ce sont ses héritiers, ses camarades de l'époque, qui ont eux poursuivi son œuvre au travers des années 20-30 en Allemagne, puis après plus tard en exil. Donc elle a quand même pensé des choses, puisque c'est une grande théoricienne, mais elle n'a pas vraiment pu l'expérimenter telle qu'elle sur le terrain.
C'est ça. Alors, un des premiers points sur lesquels il trouve une contradiction avec le bolchevisme, et ce qui peut paraître étonnant d'ailleurs, c'est l'internationalisme.
Tout à fait. C'est-à-dire que c'est à la fois un point de rapprochement et
un point de clivage,
à savoir que donc la bolchevisation, ce qu'on disait, c'est vraiment un processus qui est amorcé par Trotsky et Lénine au sein du Parti socialiste de Russie à partir de à peu près de 1905, et qui après va se répandre dans toute l'Europe, dans tous les partis qui vont se rallier à la cause bolchevique. La différence d'avec le conseillisme, et notamment Rosa Luxembourg, c'est que leur internationalisme ne repose pas sur une notion nationaliste. C'est-à-dire que Lénine, par exemple, va dire qu'il faut soutenir les luttes d'émancipation nationale par rapport à d'autres luttes pour pouvoir faire gagner la cause révolutionnaire. Rosa Luxembourg, dans son internationalisme, elle dit non. Elle dit qu'il faut bien sûr soutenir toutes les causes, toutes les luttes locales, notamment parce que le capitalisme a besoin de capter des territoires qu'il ne maîtrise pas encore et qu'il faut soutenir les gens qui sont en lutte dans ces territoires. Mais elle dit qu'il ne faut pas, en revanche, que la lutte de libération nationale prime sur la lutte de libération des ouvriers, sur la lutte révolutionnaire. Puisque dans le cadre d'une révolution nationale, bourgeoise, la bourgeoisie préférera toujours choisir la lutte d'émancipation nationale que la lutte d'émancipation des ouvriers. Donc ça, c'est une nuance relativement importante dans cette approche-là. Et par exemple, une des revues contemporaines conseillistes, à savoir Une lutte en classe dans le monde, c'est une revue dans laquelle on peut trouver, donc qui se revendique du conseillisme, dans cette revue, on peut retrouver une recension de énormément de grèves, révoltes, émeutes spontanées qu'on peut trouver dans le monde entier, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe.
Alors, le deuxième point qui, là, pour le coup, est peut-être un peu plus clivant, c'est la question du parti et peut-être la question même de l'avant-garde. C'est-à-dire que les conseillistes sont contre toute idée d'avant-garde et ils préfèrent peut-être la question du spontanéisme et sont contre aussi le parti centralisé, un parti très fortement centralisé comme les bolcheviques essayent de mettre en place.
Tout à fait. Alors là, il y a plusieurs notions qui sont abordées, mais effectivement, comme on disait tout à l'heure, la bolchevisation, c'est vraiment un processus de former un parti de militants professionnels d'avant-garde qui, eux, sont là vraiment pour encadrer la lutte, former les militants, avoir vraiment une approche autoritaire et verticale de la lutte. Ça, c'est la vision du communisme bolchevisé et de ce qu'on appellera le stalinisme. En revanche, pour les conseillistes, le parti, lui, n'est qu'un facilitateur. C'est-à-dire qu'il n'est là que pour permettre l'éclosion notamment de conseils, puisqu'on a beaucoup parlé des conseils, on parle du conseillisme, à savoir de conseils d'ouvriers, et que dans des luttes spontanées, que ce soit des luttes d'entreprise, des révoltes, des émeutes, le parti doit les accompagner, doit éventuellement les faciliter, les encourager, mais à aucun moment il ne doit en prendre la tête. À aucun moment le parti communiste conseilliste ne doit prendre la tête de la révolution et même prendre la tête de l'État. C'est une des grandes divergences que Rosa Luxembourg a avec les bolcheviques. C'est un texte d'ailleurs qu'elle écrit en 1917 en prison sur la révolution russe. Le texte s'appelle comme ça. Elle critique fortement, elle soutient la révolution russe tout en critiquant de très larges aspects. Et pour elle, voilà, le parti doit être vraiment un facilitateur. Il doit en fait
coordonner quelque part le mouvement ouvrier, le mouvement de révolte.
Coordonner et à terme, il doit même en fait se dissoudre dans la révolution, dans la nouvelle société. Il ne doit pas prendre le contrôle ni des masses, ni de l'État, ni de la révolution.
On retrouve ici une espèce de forme d'anti-autoritarisme aussi.
Tout à fait.
Aux conseillistes. Alors, on peut se demander aussi si les conseillistes sont contre cet État centralisé, sont contre une avant-garde. Comment réfléchissent-ils aux institutions? Comment réfléchissent-ils à l'État? Comment réfléchissent-ils à la démocratie, finalement?
Alors, ça, effectivement, c'est une des notions centrales du conseillisme. Hein, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Et donc, en fait, le conseil ouvrier d'usine doit se substituer à l'État, aux institutions, aux partis, aux syndicats, pour pouvoir gérer les besoins de la société. C'est vraiment un appel, en fait, aux travailleurs, pour reprendre les moyens, non seulement les moyens de production, mais aussi les moyens politiques de gestion de leur vie. Donc, ça a des limites, mais durant la République des conseils de Bavière, et en Allemagne en 1918, il y a énormément de conseils qui fleurissent dans toute l'Allemagne, sachant que les expériences avaient déjà été...
Des conseils qui ont la même forme ou qui fonctionnent sur des formes un peu différentes selon les endroits, etc.
Le système est très certainement adapté aux différentes usines, aux différents secteurs. Mais en tout cas, leur volonté, c'est vraiment de pouvoir organiser et de promouvoir ces conseils en tant que mode d'autogouvernement, vraiment de gestion de la vie quotidienne. Et que ce soit voilà, des conseils d'ouvriers, des conseils de chômeurs, des conseils de travailleurs.
Très bien. On retrouve aussi comme point... la théorie de l'écroulement inévitable du capitalisme, c'est-à-dire que on l'a vu auparavant en 1919, la situation de l'Allemagne est critique. Hein, et est-ce que les mouvements marxistes ou les mouvements révolutionnaires n'y voient pas quelque part la prédiction de cet effondrement inévitable du capitalisme sous le poids de ses contradictions? Et est-ce que c'est pas ici pour les conseillistes le signal qu'il faut achever un peu ce système moribond.
Si, effectivement, puisque le déclenchement de la révolution spartakiste se fait dans la foulée, en soutien vraiment à la révolution russe, puisque dans leur démarche internationaliste, ils pensent, par exemple, Rosa Luxembourg est en fait contre le déclenchement de l'insurrection qu'elle estime trop tôt, mais elle le valide quand même, puisque le parti est plutôt d'accord et que les bases, elles, sont fortement enclines à déclencher cette révolution. Donc, la théorie de Rosa Luxembourg, qu'elle développe dans son ouvrage « L'accumulation du capital », dit que, comme le développement du capitalisme est infini, tant qu'il n'aura pas conquis tous les territoires qu'il lui est possible de conquérir, la révolution, elle aussi, comme un processus en fait en miroir, elle aussi arrivera inévitablement. Le plus important en fait, c'est de pouvoir organiser ce processus révolutionnaire. Ça, ils ont essayé de le faire en Allemagne en 1919, ça a été un échec, il y a eu tout un tas de tentatives au fur et à mesure, mais effectivement, dans le contexte des années d'après-guerre, après-guerre mondiale, dans un contexte très trouble, très tendu, il y a vraiment un sentiment qu'il peut se passer quelque chose, d'autant plus que, historiquement, dans la pensée marxiste, la plupart des penseurs s'imaginent que l'Allemagne sera l'endroit où il y aura la révolution, puisque c'est l'endroit où la classe ouvrière est censée être la plus puissante, la plus organisée, la plus ancienne.